Le volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Mon invité dans ce nouvel épisode du volume sur 11, Colibri, avec un haut barré à la Scandinave. Il fait de l'électro, c'est une découverte. Bonsoir Colibri, bonsoir Jérôme, bienvenue dans le volume sur 11. Alors, on va parler de ta vie, de ton œuvre. Qui es-tu?
Salut Antoine, merci pour l'invitation. Alors oui, je suis plus connu sous le nom de Colibri avec un haut barré scandinave, tu as raison. C'est important de le mentionner, merci.
Pourquoi Colibri et pourquoi ce haut d'ailleurs?
Écoute, le nom est venu suite au visionnage tout bêtement d'un documentaire, quoi, animalier, un truc vraiment tout bête, quoi. Et puis quelques semaines après, quand j'ai commencé à partager ce nom-là à des potes, ils m'ont dit c'est super comme nom, en plus ça fait écho à la part du colibri de Pierre Rabhi, qui est toute une histoire sur une forêt qui est en feu et puis un petit colibri qui essaye d'éteindre le feu. Et en fait, je connaissais déjà cette histoire depuis très longtemps et je n'avais jamais fait le lien. Donc en fait, à la base, il y a vraiment juste un documentaire que j'ai visionné. Et puis juste après, c'est mes potes qui m'ont dit, mais il y a un truc avec ce nom-là. Et justement, c'est un peu une légende, là. C'est tiré d'une fable. Et du coup, j'ai adoré ça. Puis ça m'a vraiment permis de... Ok, j'ai hésité encore un petit peu. Puis je me suis dit, ah bah oui, là, c'est un concours de circonstances. Let's go, quoi. Je garde ce nom-là.
D'accord.
Les hauts barrés, parce que j'ai toujours aimé les pays scandinaves, d'une manière générale, les pays du Nord dans mes voyages. Et puis, je voulais un peu un truc un peu plus graphique dans le nom, quoi.
Voilà. D'accord. Alors, raconte-moi ton parcours musical. Ce projet, donc Colibri, quand est-ce qu'il est né et qu'est-ce qu'il y a eu avant et comment ça s'est passé?
Alors, il est né à Montréal, au Québec. Quand je suis parti là-bas faire de la musique de film pendant un an, oula, ça remonte déjà à 5-6 ans maintenant. Donc j'étais un an là-bas pour faire ce qu'on appelle en anglais là, du film scoring. Mais du coup, j'étais vraiment baigné pendant une année de faire que de la prod chaque jour dans ma petite chambre. C'était vraiment une année super productive. J'ai répondu à énormément de commandes pour des films documentaires. Et du coup, au bout de 6 mois, j'ai eu un peu un petit passage où je me suis dit, mais ok, c'est cool de répondre à des commandes de musique, mais j'avais vraiment un besoin qui commençait à se faire sentir de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire comme musique personnellement, quoi. Donc toutes mes œuvres musicales que je composais à l'écran avant, je les signais sous mon vrai nom, donc Jérôme Rossier. Et donc là, j'ai décidé de me lancer dans des compositions un peu plus personnelles. Ça s'est traduit par la musique électronique parce que j'en faisais depuis pas si longtemps que ça, mais c'est vraiment le truc qui me branchait le plus, quoi, à ce moment-là. Et puis finalement, bon, il y a plein d'univers dans ma musique, il y a beaucoup, effectivement beaucoup d'aides électroniques, mais ça m'arrive d'ajouter des fois des parties orchestrales, de la flûte, du violoncelle, voilà, il y a quand même un petit mélange des genres qui peut s'opérer. Puis de toute façon, musique électronique, c'est large, c'est comme jazz, ça veut aujourd'hui en 2023, ça veut plus trop rien dire, quoi. Donc voilà, ce projet est né à Montréal parce que j'avais envie de faire un projet perso, et du coup, en rentrant en France après, j'ai sorti mon premier EP directement.
Ouais, No Rest for the Week.
C'est ça, ouais, exactement. Donc 6 titres que j'avais composés au Québec, avec des clips que j'ai fait au Québec, avec des cinéastes avec qui je travaillais déjà, et puis on a sorti ça un peu à l'arrache, quoi, comme n'importe quel premier EP généralement. Et puis après, j'ai commencé un petit peu à me structurer, à faire des trucs un peu plus, travailler au niveau des sorties, quoi, avec des pros à côté, donc ça c'est quand même plus cool. Et voilà, donc c'est ça, avant le projet, c'était essentiellement parcours classique, là, conservatoire, piano, jazz, musique classique, des arrangements, plein de choses. Et puis après, voilà, cette transition qui s'est opérée au Québec et à mon retour en France. Et depuis, je continue essentiellement ce projet Colibri, quoi.
D'accord. Alors, le nouveau single s'appelle Montréal, donc c'est un retour sur cette période. C'est un,
Oui et non, je te dirais. Forcément, ça y fait écho. Mais en fait, du coup, en rentrant en France, donc c'était en 2019, j'ai voulu vraiment continuer à travailler avec le Québec, avec mon projet Colibri, donc faire des projets partagés, quoi, entre des structures ou des artistes québécois et puis moi en France. Et passer par là, bah, la crise du Covid, donc autant dire que c'était pas vraiment le bon moment pour créer des projets franco-québécois,
C'est clair.
mais on a tenu bon, on a tenu bon, et donc l'année dernière, je suis retourné au Québec. On a réussi à monter un projet avec un cinéaste qui s'appelle Julien Granet, avec qui j'ai déjà fait un clip pour le premier EP. Et donc on a fait un projet de film dans un village inuit au Canada, au nord du Québec plus précisément. Et du coup, je suis repassé par Montréal, j'ai fait un live sur un toit en streaming avec des poésies québécoises qui ont été mises en musique par tout un groupe que j'avais ramené. Enfin, il y avait toute une vidéo sur YouTube qui s'appelle A Sinking Sun Over Montréal, donc un coucher de soleil sur Montréal. Et donc en fait, c'est plus un morceau qui a été créé pour cette occasion, quoi. On a rejoué des anciens morceaux que j'avais composés, mais le titre Montréal clôture ce live. Et donc là, c'est la version studio que je viens de sortir et qui annonce du coup le prochain EP cet hiver, effectivement.
Ah d'accord, justement, j'allais te poser la question, quelle était la suite? Donc un prochain EP.
Ouais.
Tu te classes dans quelle catégorie d'électro? Parce que l'électro, c'est très très vaste, il y a un peu tous les genres, tous les styles, tous les sous-genres, je trouve que je suis un peu perdu là-dedans. C'est quoi, t'es plutôt ambiante?
Bah, souvent les gens disent ambiante, mais bon, ambiante, ça sous-entend des fois que y a une structure qui est quand même bah, plutôt déconstruite, quoi. Or, j'ai quand même l'impression que mes morceaux, il y a quand même bon, souvent des parties, des fois même des refrains là, sur le prochain EP. Il y a même des morceaux un tout petit peu plus pop électro où j'assume un peu ma voix. Donc ça change un peu. Je me classifierais plutôt dans ce qu'on appelle l'électronica, c'est-à-dire une musique électronique. Plutôt chill, quoi, qui est pas axé club, mais qui néanmoins peut être écouté en concert, debout pendant 1 heure et demie, avec des passages effectivement plus ambiants, des passages où ça va forcément être un peu plus le kick qui va être prédominant, et du coup on va avoir tendance à bouger un peu plus dessus. C'est tout un melting pot de plein de choses, quoi. Donc généralement en France on appelle ça l'électronica. J'ai pas vraiment trouvé d'étiquette mieux que ça, enfin qui est plus reconnue que ça, là, je t'avoue.
Est-ce que ça a une
Ouais.
importance? Ça, c'est...
Ouais, bah ça a une importance généralement pour des plateformes de streaming ou des
Oui,
journalistes qui aiment bien marquer un style de musique. Et je comprends l'envie de vouloir mettre un style de musique, c'est assez rassurant et ça permet de cibler un peu aussi voilà, bah, les auditeurs et les auditrices, quoi. Mais voilà, des fois c'est difficile de spécifier exactement un style, quoi.
En t'écoutant, en fait, je vois que ta musique, en fait, elle est très liée à l'image. Déjà, de part, je pense, ton background, effectivement, de compositeur de musique de film. Mais là aussi, même sur tes propres compos, il y a quand même, tu me parles aussi des clips qui vont avec. Qu'est-ce qui t'inspire, en fait, et comment, finalement, quelle est ta méthode de travail pour, je dirais, créer un morceau? Qu'est-ce qui vient en premier, en fait? Tu rêves de tes mélodies? Comment ça se passe?
Ça dépend vraiment. Généralement, c'est très rattaché au réel. Par exemple, dans le prochain EP, il y a du coup un morceau qui s'appelle Koudjouak, qui est le nom du village inuit où on s'est rendu avec Julien pour tourner ce film. Et donc, j'ai composé un morceau pour ce village-là, qui était du coup plutôt axé sur une situation réelle, qui est une situation environnementale un peu compliquée dans le village, avec énormément de déchets qui sont emmagasinés, et puis c'est tout un bazar, tout est brûlé. Des fois, les personnes qui vivent dans le village peuvent pas sortir. Donc il y avait un côté un peu, je voulais travailler le côté matériel. Donc on a été là-bas. J'avais déjà un peu composé une mélodie que j'aimais bien, et puis je me suis rendu en fait directement dans le dépotoir, et j'ai commencé à sampler plein de sons de lave-linge qui sont entreposés, de voitures, plein de trucs et tout, des sons de nature aussi. Et puis du coup, en rentrant après, bah, j'ai commencé à faire un peu mon beat, comme on dit là, autour de ça. Donc toutes les percus, c'est un peu ça. Et puis bah, la mélodie vient, voilà, elle est plutôt mélancolique. Là, on est dans un pays nordique, les paysages sont polaires, c'est super beau. Donc il y a un côté un peu, voilà, contraste matériel et nature. Pour d'autres projets, ça va être une idée de mélodie, effectivement. Des fois, des accords aussi, parce que bah, je suis pianiste et que pour moi, l'harmonie, ça a quand même son importance. Donc, des fois, c'est juste une progression d'accords que je vais développer. De toute façon, généralement, très très vite, je sais si j'ai un truc qui tient la route ou pas, parce que en tant que compositeur, on compose souvent, et puis il y a quand même une grande quantité de démos qui traînent sur les disques durs. Ouais. Et en fait, pour un EP de 6 titres, c'est 50 démos. Je dis un nombre au hasard là, mais c'est énormément de démos qui n'ont pas été finis, quoi, exactement. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je compose, voilà, une mélodie, une progression d'accords. Je monte un projet, par exemple, de clip avec une thématique réelle où, du coup, il y a un truc qui sort et c'est très instinctif. Et puis, en fait, le lendemain, je réécoute et je sais si je dois continuer ou pas, quoi.
Alors, si on remonte un peu le temps, j'ai compris que à la base, tu as une formation plutôt classique. Est-ce qu'il y a des artistes, justement, des musiciens, des compositeurs, et plus spécifiquement dans l'électro, qui t'ont inspiré ou qui ont été une espèce de choc musical et qui ont déclenché quelque chose chez toi et cette envie de toi-même
Ouais, totalement. En fait, même avant de... J'ai dit tout à l'heure que je faisais de la musique électronique depuis pas très longtemps. C'est un peu faux en vrai, parce que avant j'étais beaucoup plus rock. Ouais. Pas mal rock progressif aussi, des trucs genre Porcupine Tree et tout. Mm-hmm. Et en fait, l'électronique est hyper présente dans ce genre de groupe et d'esthétique également. C'est juste que quand on dit musique électronique, c'est pas généralement ce à quoi on fait référence en premier. Et du coup, j'avais quand même un peu une culture de synthé, voilà, d'aller chercher des sons bizarres, de trifouiller des trucs, des sons enregistrés avec un petit zoom dehors, des bruits ou quoi. Donc j'avais un peu cette culture-là qui existait. Par contre, ouais, une vraie révélation, moi, ça a été Rhône en France.
Ouais.
Qui a été pour moi un vrai élément déclencheur, quoi, artistiquement parlant, qui a ensuite amené plein d'autres artistes, francophones ou pas, là, genre Moderate, par exemple, qui est vraiment une grosse ref aussi. Pour moi, en fait, c'est des genres d'artistes qui à la base sont juste un vrai coup de cœur, qui n'est pas forcément motivé par des éléments objectif, c'est-à-dire c'est pas forcément un son de synthé de fou quoi, c'est vraiment juste esthétiquement et je sais pas, une sorte de fibre que je partage sûrement avec ces groupes là. Mmh. Et puis après voilà, il y a énormément d'autres groupes ou artistes qui ont été des révélations, mais en tout cas, si tu vois des noms, ouais, c'est sûr que pour moi Rhône, ça a été vraiment la grosse claque quand j'ai découvert Erwan. Ouais, ce qu'il faisait, c'était assez fou.
Ouais. Est-ce que tu as eu, alors, je sais pas, est-ce que tu as un souvenir du premier album que tu as pu acheter ou du premier concert? Est-ce qu'il y a un concert aussi qui a été une espèce de...
Ouais. D'ailleurs, c'est... Alors, concert, faudrait peut-être que je réfléchisse un instant, mais en tout cas, pour l'album, c'est sûr que pendant ma période rock, quand j'ai acheté OK Computer de Radiohead, ça a été vraiment un gros choc.
Ouais.
C'était le cas pour tout le monde d'ailleurs, je pense.
Ouais, c'est vrai.
Mais ouais, totalement un gros choc. Puis après, j'ai écouté Kid A et j'ai fait « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » J'avais genre... je sais même pas si j'avais 15 ans ou quoi. Et puis j'ai dit « Oh là là, c'est nul, je veux pas écouter ça. » Puis 3 ans plus tard, j'ai réécouté Kid A et j'ai pris une grosse claque aussi. Donc c'est tout un processus aussi, hein, de goûts musicaux qui évoluent avec le temps, surtout à l'adolescence, hein, qui est une période où on
c'est une période charnière.
Ouais, exactement. Exactement. Et en termes de concert, bah ouais, j'ai vu Radiohead en live, mais c'était une claque plus émotionnelle qu'autre chose quand même. Non, les concerts, c'est vraiment ma période jazz à Paris où j'ai vraiment pris des grosses claques. Surtout le festival de jazz qui est également à Montréal, qui m'a donné une grosse claque à un moment donné. J'aime bien ce côté interactif entre musiciens. C'est un truc que j'essaye énormément d'intégrer dans mon live électronique. C'est-à-dire que je suis pas tout seul sur scène, je suis avec Jacques Félix qui a la batterie, qui a un truc un peu hybride, acoustique et électronique. Puis dès le début, on a voulu mettre de l'impro dans le live, quoi. Je trouve que l'impro en musique électronique, c'est un truc qui est pas si courant que ça dans l'esthétique que moi je défends. Et c'est moi un truc qui me fait vraiment triper quand on est deux sur scène. Puis quand on rajoute une autre flûte, c'est encore des moments d'improvisation à la flûte en plus avec Agathe. Des fois, Cécile au violoncelle qui arrive. On a fait un concert filmé à l'Opéra de Nantes, qui est sur YouTube aussi d'ailleurs, où voilà, je lui ai dit ok, on part sur telle grille harmonique, tant de mesures, et puis vas-y, éclate-toi, quoi. C'est un truc qui est énormément fait en jazz.
Oui.
Et en musique électronique, pas
trop, ouais.
ça existe, mais quand même, on est sur une esthétique où tout est très écrit, quoi. Quand même, un peu. Ce qui est bien aussi, hein, c'est pas bien ou mal, là, on s'en fiche, c'est
l'expérience musicale que tu fais ressentir
c'est ça.
Au spectateur. Enfin, on va écouter Montréal, donc le dernier single que tu as sorti, donc en préambule d'un album à venir. Voilà, donc on se retrouve juste après le morceau. Thank you. C'était Montréal, le dernier single de Colibri. Alors, on va passer à l'interview express. Quelques questions, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. La première question, c'est truc improbable. On doit fuir pour des raisons X ou Y, invasion russe ou je ne sais pas quoi. Tu ne dois garder qu'un seul album de toute ta collection, de CD, de cassette, de vinyle, de MP3, de machin, etc. Qu'est-ce que tu embarques en premier?
Oh, waouh! Je pense que je garderai l'album. J'ai parlé de Rhône tout à l'heure. Je garderai l'album Mirapolis de Rhône, qui a été, qui justement est un album où il y a beaucoup plus de featuring avec d'autres musiciens et chanteurs-chanteuses. Et du coup, ce côté interactif, il se ressent là énormément dans l'album. Et puis ça, forcément, quand il y a des chanteurs-chanteuses, ça donne un côté des fois un peu plus pop, des fois pas. Ça arrive à rester quand même assez un peu indie là, comme on dit, mais. Mais ouais, c'est un album qui me parle beaucoup, ouais, totalement.
Alors, si on restreint le choix, ne me demande pas pourquoi, c'est une question qui est parfaitement absurde, mais si tu devais garder qu'un seul, un seul titre...
De cet album-là ?
Globalement, un seul titre, tu
dois... Oh, waouh ! Ah non, dans ce cas-là, j'irais dans totalement autre chose. Je pense que si je gardais qu'un seul titre, j'irais sur du jazz, parce qu'en termes de complexité musicale, c'est beaucoup plus... Voilà, pour moi, c'est vraiment un truc beaucoup plus... J'ai pas envie de dire majeur, là, mais on va pas lancer le débat de ce truc-là. Mais voilà, il y a un truc qui, pour moi, si je dois écouter le même morceau en boucle, je trouverais beaucoup plus, des fois, d'éléments nouveaux dans du jazz que dans d'autres styles de musique. Et j'irais sur Miles, Blue in Green, quoi. Avec John Coltrane, le grand classique là, mais carrément, j'irai sur du jazz.
Est-ce qu'il y a un album, une chanson, un son qui te plonge, mais là qui te plonge vraiment dans une déprime, dans une tristesse absolument insondable?
Oui, ça peut m'arriver, comme tout le monde. Une tristesse. Donc tu m'as dit un artiste ou un album, c'est ça?
Oui, artiste ou album, en fait, il y a vraiment des choses, tu sais que, après, la question c'est, est-ce que c'est volontaire ou pas, mais vraiment qui te fait un effet, waouh, t'écoutes ça, t'es totalement down.
Ah ouais, si j'écoute du Chopin, je suis down direct, hein. j'en ai joué quand j'étais plus jeune au conservatoire, etc., et j'ai appris aussi à... essayer un peu de comprendre les interprétations de ces œuvres-là. Et c'est vrai que moi, c'est un compositeur qui me touche énormément. Et alors, qu'importe, ce soit les préludes, les valses ou autres, de toute façon, Chopin, c'est plutôt down, généralement.
Ouais. Alors, une fois qu'on est bien down, en fait, il y a un moment où il faut remonter à la surface. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu écoutes? Ou qu'est-ce qu'il y a des... Pareil, son, musique, qui te... artiste, album, compositeur, qui te met, mais voilà, dans une... qui te donne la patate.
Ouais, carrément. Il y a Tom Misch qui me met une grosse patate. Des fois, je me mets ça le matin, quand par exemple je suis fatigué ou que ça va pas trop, parce que déjà c'est incroyable musicalement. Et puis en plus, il a sorti un projet. Alors récemment, c'est plus trop récent maintenant là, mais je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est Super Shy, qui est un projet de musique électro, mais par Tom Misch. D'accord. Et c'est vraiment incroyable. Si des gens qui connaissent pas, il faut absolument aller écouter ça. Il n'y a pas beaucoup de morceaux qui sont sortis, mais c'est assez fou.
Je vais aller écouter, parce qu'effectivement, là, je ne connais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des rares aussi? Alors là, on n'est pas obligé de balancer des noms, mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux vraiment pas écouter, plus écouter, que tu ne supportes pas, qui te mettent dans un état de nerfs, de rage?
Oui, effectivement. Il y a effectivement une sorte de prise de conscience aussi depuis quelques années, où je me dis que certaines chansons, souvent de la variété française, qui est parfois un peu vieille, en fait, se ressent plus trop dans l'actualité actuelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a effectivement des chanteurs ou chanteuses d'ailleurs, hein, c'est pas forcément l'un ou l'autre, mais qui pour moi, quand j'étais adolescent, j'écoutais, ça pourrait m'arriver en famille d'écouter ça et puis d'apprécier certaines choses, et puis maintenant, voilà, je mets un peu le frein sur la vieille variété française des années 2000, voilà.
Ah oui, oui, c'est pas la meilleure période, effectivement. Alors, dans ce cas, justement, puisque glissons sournoisement sur ce sujet-là, est-ce que tu as dans tes quelques plaisirs coupables? quelques trucs vraiment pas assumables, mais bon, que tu assumes quand même, et parce que tu prends du plaisir à écouter justement, on parlait de
quelque chose. Bah, je sais pas si c'est des plaisirs. Ouais, c'est sûr qu'un mec qui fait de l'électro, s'il dit qu'il adore Joe Dassin, c'est peut-être un peu bizarre. Je sais pas. En même temps, pourquoi pas.
En même temps, pourquoi pas, parce que c'est des
Ouais, c'est incroyable, Joe
compositions, enfin,
Dassin.
c'est plutôt, enfin, des airs qui sont assez
Ouais, totalement.
mémorisés.
Des plaisirs coupables. Oh là là, tu me poses une colle là.
Je te réponds, il n'y a pas de contrainte.
Bah pour le coup, tu vois, ce que je vais répondre, c'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est du coup la très vieille variété française. Ouais, totalement. Totalement.
Ouais. Et est-ce que, alors donc, on l'a un petit peu ébauché, enfin, on l'a effleuré, est-ce qu'il y a un artiste que tu places vraiment là au sommet de ton panthéon personnel? C'est plusieurs d'ailleurs. Parce que tu as cité quelques noms dans des genres très différents.
Ouais, quand même en musique électronique, moi, The Boards of Canada, c'est Aphex Twin, tout ça, c'est le sommet, quoi. C'est vraiment difficile d'égaler ça. En jazz, par exemple, je trouve que Snarky Puppy, voilà, c'est incroyable, c'est très difficile d'égaler ça. Et puis, énormément de gens ont essayé de les copier après, un peu esthétiquement. Et du coup, il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Donc, ils ont été vraiment des, un peu, pas des précurseurs parce qu'il y en avait avant, mais je veux dire, ils ont quand même insufflé un nouveau souffle dans la scène un peu fusion jazz. Et puis, allez, un dernier. Pour moi, en musique de film, Alexandre Desplat.
Ouais.
Cocorico, quoi, incroyable, incroyable, fou malade.
Parce qu'il y avait une transition, est-ce que tu as des films cultes, des livres cultes pour sortir un peu du champ purement musical?
Oui, j'ai un livre de Richard Bohringer que j'adore lire. Il écrit un peu, pourtant on le connaît plutôt en tant qu'acteur, réalisateur, même chanteur. Il a fait des trucs avec Grand Corps Malade, etc. Mais il a écrit un bouquin un peu en mode, comment ça s'appelle déjà en anglais, fast writing, c'est-à-dire un peu. Alors ça s'appelle les nouveaux contes de la cité perdue. Et c'est on peut le trouver d'occasion là pour rien du tout, et c'est vraiment une écriture un peu automatique, voilà, c'est ça que je cherchais, un peu style dadaïsme, etc. Et puis c'est vraiment un vrai boost quand on lit ça là. C'est très humain, c'est très, ça se passe aux États-Unis, ça parle de jazz, ça parle de musique en général, ça parle d'inspiration, ça parle de relations amoureuses, ça parle de la vie, quoi. C'est vraiment top, top, top comme bouquin.
Alors, on va terminer en écoutant un titre, Collapses. Alors, Collapses, il a fait l'objet de plusieurs remixes. Donc ça s'est fait comment, ces remixes?
Ouais, bah c'est un single que j'ai sorti. Tout juste on sortait du Covid, c'est un peu le morceau que j'ai sorti à ce moment-là. C'était une période où j'avais peu d'inspiration, et puis du coup je voulais faire une œuvre un peu électro-orchestrale. Et donc c'est vraiment le morceau où voilà, il y a beaucoup d'orchestre qui est prédominant, il y a beaucoup de textures un peu ambiantes bizarres là au milieu, on va entendre ça. Et puis du coup j'ai voulu vraiment, comme c'est un single, amener un peu d'autres univers autour. Donc j'ai demandé à deux amis que je connaissais personnellement, donc IAM Sparrow, qui a un projet d'électro à Valence, et Flosso, qui est à Angoulême, qui fait une sorte d'électro-pop très texturé avec sa voix, etc., de remixer ce morceau-là. Et j'ai également demandé à Roman Santarelli, qui à l'époque n'avait pas encore sorti son premier album, là, mais qui, alors là, depuis, a vraiment décollé, et qui tourne beaucoup, etc., et dont je suis très fier de son remix. Ça s'est passé assez naturellement, donc j'ai envoyé un peu tous les stems séparés, et puis il y a eu très peu de retours finalement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment capté, il y a des remixes où ils ont vraiment gardé l'identité du morceau, et des remixes où vraiment c'est difficile de reconnaître le morceau de base, mais tant mieux, quoi, ça apporte vraiment une diversité. Du coup, dans un EP que j'ai appelé Collapses Remix, qui est dispo bien sûr partout. Et du coup, on a ma version, une version édite, et puis les trois remixes derrière. Voilà. Là, c'est la version full. Peut-être que tu vas, passer.
Super. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. Merci, Colibri, pour cet échange. Il y a des scènes prévues bientôt? Il y a quelques dates?
Ouais. Alors, bon, là, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont écouter ça. Ce n'est pas encore annoncé, mais du coup, j'ai un EP qui sort en novembre et il y a deux dates à Nantes et à Paris qui sont prévues. Deux vraiment belles dates. Là, je suis super content. J'ai trop hâte d'annoncer ça. Bon. Et j'essaye de pousser pour d'autres villes comme Lyon, Berlin, Montréal, etc. On croise les doigts.
On se suivra ça en temps voulu. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Au revoir. sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois. La musique du générique a été composée par Nezik. Pour plus d'informations, ou pour écouter les épisodes précédents, retrouvez-moi sur mon site, levolumesur11.com.